cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 12 mars 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
Cette semaine-ci, vous voyez, on aura pas mal de cours de philosophie pour avancer. Mon père, pour revenir sur le dernier cours, lors donc qu'on dit que la fin détermine, bon, strictement, la fin ne détermine pas. Elle attire. Est-ce pour dire que la fin permet l'exercice de nos puissances? Oui. C'est pour ça qu'elle attire. C'est-à-dire de ce qui est déjà déterminé. C'est sûr. L'objet détermine. La fin ne détermine pas. Elle achève. Alors, toute la différence entre achever et déterminer. Vous voyez, en art, ça se voit très bien, ça. Les ateliers pour celui qui pousse jusqu'au bout l'affinement, affiné. Qu'est-ce que c'est qu'affiné? C'est déterminé. Quand vous faites une table et que vous voulez que cette table soit lisse, c'est plus que déterminé, lisse. Et le toucher voit très bien la différence entre la détermination qui peut être encore rugueuse et l'affinement achevé. L'œuvre est achevée. Alors, l'achèvement, achevé, c'est la fin. C'est terminé. La détermination permet d'être achevé, mais n'est pas l'achèvement. Je reviendrai sur ça parce que c'est très important de bien comprendre la spécification et l'achèvement. Dans notre vie aussi, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. C'est pas la détermination, c'est l'achèvement. C'est d'être infiniment bon. La perfection de Dieu, c'est d'être infiniment bon. C'est pas seulement d'être bon, c'est d'être infiniment bon. C'est d'avoir pas de limite dans la bonté. Avoir pas de limite dans la bonté, c'est l'achèvement. Vous voyez, vous direz que quelqu'un est bon. Ah, mais il faut pas aller trop loin. Hein. Quand on touche certains domaines, ça pique. Il ne faut pas y aller trop vite. On voit très bien, constamment, la vertu vous rend déterminé pour le bien, mais pas achevé. Un homme purement vertueux, uniquement vertueux, c'est très ennuyeux. Et on a tous connu des gens très vertueux dans notre vie. On en a vite assez. Ils sont très vertueux, on ne peut rien leur reprocher. Rien du tout. Mais comme c'est ennuyeux, c'est la détermination uniquement. Oui, prenez tous ces exemples-là et puis vous réfléchissez en disant, qu'est-ce qu'il y a? L'abîme entre la cause formelle et la cause finale, la cause formelle, la détermination, la cause finale, l'achèvement. Quelque chose est terminé. Alors, terminé, vous voyez, c'est équivoque. Hein. Le mot grec, deux mots différents. Hein. Péras et télos. Péras, c'est la limite. On est terminé. La limite. Et puis, télos, c'est la fin. Vous voyez très bien ça, la différence entre une vache mise au poteau pour brouter l'herbe. Elle tourne autour la corde à une longueur, elle tourne autour, tout le tour est très bien fait. Et puis, vous la voyez, elle tend la langue pour ramasser quelque chose un peu plus loin que ça. C'est extraordinaire la différence entre péras, le terme, et puis la fin qui attire. C'est la langue qui dépasse. Ouh, prendre la chose, prendre le morceau qui passe. Il y a quelque chose de très délicat et très important, ça. Notre vie. Bon, les pharisiens, c'est des gens parfaitement déterminés, qui sont terriblement ennuyeux, puisque même Jésus était agacé par les pharisiens. On avait l'impression qu'il avait de temps en temps exprès, devant le dos des pharisiens, que le jour du sabbat, il pouvait prendre des épis pour eux. Et les pharisiens disaient, pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ça. C'est le gendarme. Il n'a pas le droit de faire ça. Il m'a dit, mais non, écoutez. C'est la finalité. La finalité ne vous ennuie jamais. Parce que vous êtes toujours avide de l'atteindre. Et vous n'atteignez jamais assez. Tandis que la détermination pérasse. Alors, c'est très important ça, parce que une spiritualité est vraie par sa fin. Une spiritualité risque de n'être plus une finalité quand il n'y a que la détermination. Elle est enfermée. On a des gens parfaits, c'est possible, on ne peut rien leur reprocher, rien du tout. Mais enfin, c'est la sainteté du côté de la finalité, elle n'est pas du côté de la vertu. Et c'est pour ça qu'on regarde l'héroïcité des vertus. Regardez l'héroïcité des vertus, justement le dépassement des vertus. Et la sainteté était dans le dépassement des vertus. Alors, on y reviendra, ça, parce que c'est une des choses qu'il faut essayer de saisir. Et c'est très important entre théologie scientifique et théologie mystique. Théologie scientifique, la détermination. Théologie mystique, le fout de camp par l'amour. Il y a toujours deux. Et la scolastique décadente ne voyait que la détermination. La détermination, ça vous donne une sécurité, vous voyez. Mais ça ne vous fait pas atteindre la sainteté. Ça donne la sécurité. un château fort bien fermé, et on envoie la poix sur tous ceux qui veulent y entrer. C'est exactement ça. Les portes sont fermées, on est fermé. Avec l'autre, il y a l'ouverture. On est l'attraction. Alors ça s'exprime de deux manières, par le point de vue de la fin de la, et par le point de vue du sujet. Du côté objectif, il y a l'achèvement. Du côté subjectif, il y a l'attraction. On est préparé de... Et le désir, c'est toujours par rapport à la finalité. C'est pour ça que le désir exprime quelque chose. Alors, voyez, dans la question là, lors donc qu'on dit que la fin détermine, la fin ne détermine pas, la fin attire. C'est l'objet qui détermine. Alors, quelquefois, l'objet et la fin sont les mêmes. Pour Dieu. Dieu est l'objet de ma contemplation. Et il est la fin de ma vie. Là, vous avez les deux qui tiennent. Ça, nous allons le voir tout de suite. Bon. Alors, je continue le cours. Nous avions vu, si vous vous souvenez, dans les différents degrés de vie, les requins, la vie végétative, l'acte, la simulation. On prend tout pour soi. Un égoïsme foncier, ma vie végétative. Je porte en moi un égoïsme foncier dans ma vie végétative. Et je le sens d'autant plus que je suis à côté de quelqu'un qui m'empêche de parfaitement respirer. J'ai besoin d'avoir de l'oxygène. J'ai besoin d'avoir le pain nécessaire pour manger. L'acte de la vie végétative reste l'entelekeia. Et l'aliment, c'est lui qui actue. Puis nous avions vu l'acte dans la vie sensible. Alors, dans la vie sensible, il y a la vie des sens externes et la vie imaginaire. L'imagination demeure vie sensible. L'imagination a ceci de particulier, c'est que l'imagination demeure dans l'immanence. Je suis principe de mon imagination et fin de mon imagination. C'est la séduction terrible de l'imaginaire. Nous sommes un monde dans l'imaginaire. Ça, je crois que ce qui caractérise notre monde, avant le siècle dernier, et nous continuons, c'est l'imaginaire se développe énormément. Et on développe l'imagination de l'enfant par le cinéma, par la télévision. Où l'enfant est toujours en contact avec, non pas la réalité, mais avec des réalités intentionnelles. On vous montre un monde merveilleux, un monde de cruauté, de violence, un monde d'amour, de jouissance. On vit dans l'imaginaire. Et à ce point de vue-là, c'est très utile d'étudier l'imaginaire. Il n'y a pas beaucoup de traités sur l'imaginaire. Il y a celui d'Aristote. Et le traité sur l'imagination d'Aristote est très intéressant. Parce qu'il montre que dans l'imaginaire, vous-même, vous donnez l'objet. Il vient de vous. Vous imaginez un monde. Le gosse, il imagine. Puis un beau jour, il a vu la différence entre l'imaginaire et le réel. Mais l'imaginaire continue d'exister. L'imaginaire commence par le toucher. Le toucher est le sens le plus réaliste. Et dans le toucher, il y a bien ce que vous ressentez et l'objet sensible qui actue votre toucher. C'est doux. Un bois très lisse, comme c'est agréable. Hein. C'était le côté qu'on racontait comme histoire, des jalousies, des fois farouches, qui existaient entre Mauriac et puis quelqu'un, le nom m'échappe. Et alors, il voyait son épouse, c'était le seul écrivain qui vivait de ses écrits. Alors, son épouse avait un manteau de fourrure merveilleux, extraordinaire. Alors, on raconte que Mauriac, en le saluant, il passe sa main sur le manteau de l'épouse de l'écrivain. Il dit « Oh, mon doux Jésus !» La douceur, la fourrure. Et alors, lui, c'était, tout son argent était passé dans la fourrure. Et son argent provenait de ses livres. Alors, au moins tout. Parce que Mauriac ne vivait pas de la rente de ses livres, tandis que l'autre vivait de la rente de ses livres. Et c'était pas un véritable écrivain. Il n'avait pas le génie de Mauriac. L'inspiration de Mauriac, qui était terrible. Mauriac a une imagination qui est quelquefois assez effrayante, parce qu'elle s'applique au point de vue religieux. C'est un homme où la négation, le mal, était toujours là. Quand il disait, à propos de l'Immaculée Conception, ah, je l'aimerais mieux si elle n'était pas immaculée. Et ça s'est exprimé. Oui. Il aime mieux quelqu'un qui est proche de lui que la finalité qu'il fait sortir de lui. L'immaculée, c'est Marie, elle est seule immaculée. Bon, j'aimerais mieux si elle n'était pas immaculée. C'est très significatif, vous voyez, comme chose. C'est terrible. C'est mettre la détermination avant la finalité. Ce qui est en code naturalisé avec nous, avec notre misère, nos épreuves. Mais dans la vie végétative, ça, l'avantage de la vie végétative, c'est que nous l'expérimentons. Il y a l'objectivité très forte des sens, du toucher. Et cette objectivité s'achève dans le jugement d'existence. Dans le jugement d'existence, vous pouvez dire que ce que vous touchez, il est. Vous voyez, des choses très extraordinaires. Le toucher, qui est le sens, qui est le plus fondamental, où l'objet est présent à celui qui touche, est en même temps le sens qui éveille le jugement d'existence. Ceci est. Et faites-vous même l'expérience, vous pouvez le faire facilement, vous touchez, et vous dites ceci est. Alors voyez, quand vous dites ceci est, vous dépassez le toucher, et c'est l'intelligence qui s'éveille à partir du toucher. Il y a la rencontre de l'intelligence et du sens dans le point de vue du toucher qui me permet de dire ceci est. Vous ne pouvez jamais dire ceci est sans le toucher. Quand vous n'avez que la vue, vous ne pouvez pas dire ceci est. Je vois. Ça doit exister. Mais je ne l'ai pas touché. Oui, je vous ai déjà dit ça quand il y avait ce regard sur les soucoupes volantes. On parlait toujours de tous les sens en dehors du toucher. Si on regardait cette étude-là, vous voyez que on ne voyait pas le toucher. Donc on ne savait pas si ça existait. J'entends, je vois, et le toucher. Tant que vous n'avez pas touché quelque chose, vous ne savez pas si ça existe. C'est le propre du toucher. Alors c'est le toucher qui est le sens le plus réaliste, parce que c'est le sens qui me permet d'affirmer ceci est. Et tous les autres sens sont pris spécialement par l'imaginaire. Vous imaginez très, très difficilement le toucher. Les hallucinations du toucher sont les plus terribles. Les hallucinations de la vue, c'est courant. Les hallucinations de l'ouïe, c'est courant. J'entends des voix. Mais toucher, ça devient grave. Parce qu'à ce moment-là, votre jugement d'existence est dépassé par le point de vue imaginaire. C'est le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est un monde de l'œil, de la vue, où c'est beaucoup plus facile par la vue de passer de la vision à l'imaginaire. Et la très grosse difficulté, c'est de discerner le point de vue du jugement d'existence et le point de vue imaginaire. Donc, le domaine de la vie sensible est extrêmement intéressant pour regarder l'acte et la puissance. Vous avez la capacité de voir et vous voyez. Et comment voyez-vous ? Il faut un objet. Et quand l'objet n'existe pas, vous l'inventez. Et vous croyez qu'il existe. Pas imaginativement. Alors, le jugement d'existence, c'est la sortie du point de vue sensible. C'est le dépassement du point de vue sensible, où l'intelligence se sert des sens, du toucher, pour affirmer quelque chose qu'elle seule atteint. Mon intelligence. Et dans la vie sensible, pour les sens externes, les sensibles propres sont l'acte et la sensation, elle est entelekeia. La vision, le toucher, l'odorat, la vue, C'est quelque chose qui demeure en moi et que je possède. Et je peux avoir la jouissance des sens externes, la jouissance du goût, un bon vin, la jouissance du goût, la jouissance de l'oreille. Vous voyez, tous les arts se greffent autour des sensibles propres et manifestent ces sensibles propres d'une façon étonnante, pour qu'on se repose dans ses sensibles propres. La peinture, l'architecture, c'est une espèce de quelque sorte de manifestation de tout ce qu'il y a d'acte au point de vue sensible. La lumière, le son, le toucher, et puis nous entrons dans la vie de l'intelligence. La vie de l'intelligence, je vous ai dit au dernier cours que je peux parler de l'intelligence comme ce qu'il y a de plus vital en moi. C'est ce qu'il y a de plus vital en moi. Je suis indépendant par mon intelligence. Si j'ai une vie d'intelligence très forte, je suis indépendant. Si je n'ai pas de vie de l'intelligence, je suis dépendant du milieu dans lequel je suis. Et c'est vrai, ça. Les artistes sont très dépendants de leur milieu. C'est normal, parce que c'est la vie sensible qu'ils développent, qu'ils mettent en pleine lumière. Alors, ils sont très dépendants du milieu dans lequel ils se trouvent. Un peintre, autant que possible, doit pouvoir vivre dans un lieu où la lumière est particulièrement forte. C'est pour ça que les peintres aimait tellement la Côte d'Azur, aime tellement ces pays où la lumière est à la fois très douce et très forte. Les peintres flamands aiment le point de vue particulier de la lumière veloutée à cause de la brume, à cause du brouillard. C'est extrêmement curieux de voir combien les peintres et les artistes sont dépendants du milieu. L'intelligence vous rend indépendant. Alors, je dis, l'intelligence en tant que vie supérieure, je garde en moi ce que je connais, et le connaissant, je m'en nourris. Alors je peux regarder ma vie intellectuelle, point de vue vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus élevé dans l'intelligence? Où suis-je le plus vivant? C'est la contemplation. C'est dans la contemplation qu'on est le plus vivant. La contemplation, c'est un acte à la fois de l'intelligence et de l'amour. C'est la sagesse qui est contemplative. Et la sagesse est la qualité spirituelle la plus élevée. C'est par la sagesse que j'ai une noblesse spirituelle. Et donc, que je deviens l'être le plus qualitatif. Puisque c'est c'est la qualité de l'intelligence et du cœur qui s'unissent, qui sont unis dans la sagesse, dans la contemplation. La contemplation, elle est le bien de mon intelligence, puisque c'est l'acte le plus parfait de mon intelligence. L'acte le plus parfait de mon intelligence, c'est donc l'entelekeia de mon intelligence. Il n'y a rien au-dessus de la contemplation. Et là, Platon et Aristote sont d'accord. Et sûrement, une des choses que Platon a transmis à Aristote, c'est la grandeur de la contemplation. Platon est resté uniquement dans le point de vue vie de l'intelligence. L'intelligence vit de la manière la plus parfaite dans l'acte contemplatif. Aristote a voulu, lui, montrer que la contemplation dépendait de la réalité suprême, Dieu. Le contemplatif regarde Dieu. Et Dieu devient l'acte de ma contemplation. Acte et fin. Et là, j'ai cette chose très très curieuse que Dieu est fin, et parce qu'il est fin et que mon intelligence le contemple, cette fin suprême, dernière, elle attire l'intelligence et elle les détermine. Mais elle les détermine analogiquement, pas directement, puisque je ne vois pas Dieu. Je sais qu'il existe. Alors, l'exister, l'acte premier, Dieu acte pur, est pour moi ce qui détermine le plus profondément mon intelligence, mais détermine mon intelligence d'une manière analogique, puisque je ne suis pas déterminé par Dieu. Dieu échappe. Il est transcendant. Et là, je suis vraiment en face de la transcendance. Une réalité que je ne peux pas saisir immédiatement et que je ne saisis que analogiquement. Vous voyez, c'est très curieux que l'existence de Dieu me révèle ce qu'est Dieu. Ce n'est pas ce qu'est Dieu qui me révèle son existence, puisque je ne le connais pas. Et l'erreur de Descartes, c'est de croire que c'est Dieu, dans sa détermination d'acte pur, qui détermine mon intelligence et me permet d'affirmer qu'il existe. C'est l'erreur de Descartes, c'est l'erreur de beaucoup, de tous les ontologistes, qui croient que la détermination est première, qu'elle est toujours première. Dieu fait exception. C'est vrai, en dehors de Dieu, la détermination est toujours première. Mon intelligence est d'abord déterminée pour que mon cœur soit finalisé. Et quand il s'agit de Dieu, mon cœur est finalisé avant que mon intelligence soit déterminée. Et parce que mon cœur est finalisé, je puis préciser comment Dieu détermine mon intelligence. Et ici-bas, je suis obligé de dire que Dieu détermine mon intelligence d'une manière analogique. Pas directement. C'est l'analogie de l'être, acte pur. C'est la grande détermination, acte pur. Et cet acte pur dans l'intelligence, c'est la vérité. Dieu me détermine analogiquement. Alors, ça me permet de voir cette contemplation vue du côté vital. C'est vraiment le sommet. Entelekeia, dans ce qu'il a de plus parfait. C'est la perfection que je porte en moi. Mais cette Entelekeia implique d'être déterminé analogiquement par une réalité, acte pur, énergéia, Dieu. Mais par l'amour, je suis en contact avec Dieu. Oui. L'amour va plus loin que l'intelligence, hein, pour les réalités qui sont supérieures à moi. L'amour va plus loin, parce que l'amour, grâce à sa réalité, vit de l'attraction du bien. Cette attraction du bien, je la possède en moi. C'est mon amour de Dieu. Mais cet amour que j'ai de Dieu, il se termine en Dieu. C'est le réalisme de l'amour. Il atteint Dieu. Alors que mon intelligence ne peut être déterminée que d'une manière analogique. Il y a quelque chose de très curieux quand je regarde au point de vue vie, le point de vue de la contemplation, où l'amour est toujours quelque chose de plus parfait que la connaissance. L'amour va plus loin. Et donc atteint directement celui qui m'attire. L'amour demande ce réalisme de toucher, d'atteindre celui que mon intelligence ne peut pas atteindre directement, mais atteint toujours d'une façon analogique, par l'intermédiaire des autres analogués, par l'intermédiaire de ce qui est la raison de ces perfections, la raison d'être. C'est un statut très particulier que la contemplation. Au point de vue vital, je comprends très bien que la contemplation est vraiment l'acte le plus parfait, ultime. Donc, Entelekeia. Je ne peux rien ajouter au-dessus de la contemplation. Je m'y arrête et je m'y repose. Mais je m'y repose grâce à l'amour, pas grâce à l'intelligence. La connaissance purement analogique de Dieu ne permet pas le repos, permet simplement de le poser, de l'affirmer. Mais je n'ai aucune appréhension de Dieu. Je n'ai aucun concept de Dieu. Je n'ai que cette connaissance analogique. Mais, par le point de vue de l'amour, je peux me reposer. Donc, il y a dans cette contemplation un repos. Et ce repos vient du fait que j'aime Dieu et je me repose en lui. Vous voyez, intellectuellement, il n'y a pas de repos. Et le repos vient de l'amour. Alors, je suis donc en présence d'un acte parfait qui est conjoint à l'énergaya, saisi analogiquement. Ce qui me permet d'attendre le jour où cette réalité que j'atteins analogiquement, je pourrais l'atteindre directement. Et je l'atteindrai directement par une grâce spéciale de Dieu qu'on appelle l'Omen Glorie. L'essence même de Dieu, Dieu lui-même, déterminera ma vision. Vous voyez, c'est le prof de la vision béatifique, où Dieu détermine mon intelligence. Je n'aurai pas de concept de Dieu distinct de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui achèvera mon attente et qui déterminera ma vie intellectuelle en l'élevant jusqu'à Dieu. Donc il y a donc quelque chose de très particulier dans cet acte de contemplation, fruit de la sagesse, c'est que cet acte se réalise dans l'amour. Mais ici sur terre, le dernier mot est à l'amour, dans une saisie analogique de l'intelligence. Parce que saisie de Dieu n'est qu'analogique, je dois laisser l'amour passer devant. Parce que cette saisie analogique de Dieu est très pauvre. Alors, elle s'efface en face de la présence. Et c'est pour ça qu'au fond, au point de vue connaissance, c'est plus une présence qu'une vision. La contemplation philosophique est plus présence que vision. Mais il y a une véritable et réelle présence. Et la présence, c'est l'entelekeia qui est grâce à l'énergeia qui est la présente. Il y a la jonction des deux. L'entelekeia aboutit à l'énergeia. Dieu est présent. Je crois que ça, c'est très important à essayer de comprendre, parce que ça montre bien que la contemplation, c'est seulement cela qui achève ma vie intellectuelle, qui lui permet de se reposer. Et vous voyez que c'est la même finalité de l'intelligence et de l'amour. L'intelligence et l'amour sont distinctes dans le cheminement et s'unissent dans la contemplation. Il y a une unité. Mais dans le cheminement, c'est sûr que l'intelligence reste toujours avec son désir de posséder, d'assimiler. Tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui est supérieur à moi-même, comme existant, je ne peux le connaître qu'analogiquement. Je ne le connais plus par l'assimilation. Mais je le connais analogiquement. Donc, j'ai besoin de l'amour pour pouvoir l'atteindre plus parfaitement. Je n'ai de l'intelligence une connaissance propre que grâce justement à la métaphysique, où je vois que mon intelligence est faite pour l'être. Et je saisis là, par ce point de vue-là, le propre de mon intelligence qui s'achève dans une connaissance analogique permettant le repos grâce à l'amour. Je vois donc que ma vie intellectuelle a besoin de l'amour au point de départ et au terme. Entre deux, mon intelligence essaie toujours d'être par elle-même sa propre détermination. Elle essaie par elle-même d'être entièrement elle-même. Mais elle est dépassée par le point de départ, le terme. Mais elle est dépassée de deux manières très différentes. Elle est dépassée par le terme, par le point de vue analogique. Elle est dépassée par le point de départ, par l'expérience, le sens. J'ai besoin du toucher pour poser le jugement d'existence. Donc mon intelligence est dépassée par le sensible. Et mon intelligence est dépassée par l'analogie dans sa contemplation. Je vois donc que au point de vue acte, jamais le point de vue vie me permettra d'avoir une connaissance plénière, parfaite, de ma vie intellectuelle. Ma vie intellectuelle, au point de vue vie, est dépassé par le sensible et dépassé par l'analogie. C'est extrêmement curieux, ça. C'est-à-dire l'assimilation de l'intelligence. Hein. L'intelligence comme assimilation, c'est-à-dire le mode propre de mon intelligence, mon mode proprement humain, est doublement dépassé par le point de départ et le terme. je ne peux pas dire que j'assimile l'être. Mais je le connais. J'ai un concept de l'être. Il y a un concept analogique. Mais je n'ai pas de concept de Dieu. Donc, mon intelligence reste limitée par le jugement d'existence et par la contemplation de Dieu. En dehors de là, mon intelligence essaie toujours de revenir à la simulation pour être indépendante. Tandis que dans le point de départ et dans le terme, l'intelligence doit accepter ce réalisme qui la met en dépendance de la réalité. Que ce soit une réalité sensible, que ce soit la réalité divine. Elle est là en dépendance. Elle est dépassée par le sensible, le jugement d'existence. Elle est dépassée par Dieu.